Salon Noir. Qu'est-ce que la Méditerranée aurait bien pu nous apporter ? L'écriture et l'agriculture, diront certains, la paix et le vin salueraient d'autres. À l'occasion des journées qui se tiendront à Arles, vendredi et samedi, autour de la Méditerranée, nouvelles recherches, nouvelles découvertes et en partenariat avec France Culture, le Salon Noir a choisi de se pencher sur deux villes emblématiques du Midi méditerranéen. Ni Marseille ou Martigues, Toulon ou Cavaillon, mais Arles et Lattes, où de très importantes recherches sont entreprises depuis des décennies. Sabrina Marlier, Lionel Pernet, bonjour.
Bonjour.
Sabrina Marlier, vous êtes bien entendu archéologue et œuvrez sous les eaux à la découverte du passé arlésien. Vous êtes actuellement en ligne, au téléphone, du musée départemental Arles Antique. Les pieds sur terre et bien en face de moi, dans le studio de France Culture, Lionel Pernet, vous êtes conservateur du musée Henri Prat de Lattes et œuvrez à l'exhumation de l'antique cité de Latara. Pourquoi choisir Arles et Lattes ? Arles est dans les Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lattes dans l'Hérault, donc dans le Languedoc-Roussillon. Ces deux cités ont un passé bien différent, toutefois elles ont un point commun, et cela depuis plus de 2000 ans, Lionel Pernet ?
C'est le même nom en fait, le même toponyme qui décrit ces deux lieux, Arré Laté et Lat Ara ou Lat Arré, qui est formé de deux mots gaulois. Alors Arré qui veut probablement dire, hein, parce que notre connaissance du gaulois est évidemment déjà lacunaire et puis difficile à reconstruire puisque les Gaulois écrivent pas ou très peu en tout cas.
Oui, il y a 300 mots qui sont passés dans la langue française.
Près. Donc on a un dictionnaire du gaulois, mais qui est quand même très très limité. On a énormément de noms de lieux qui sont formés souvent avec des mots qui décrivent le paysage. Et donc c'est le cas d'Arles et de Lattes. Arré qui veut probablement dire devant ou en avant de quelque chose. Et Latis qui serait le marais. Et donc on a deux villes qui sont en avant ou devant les marais. Et donc on a une description assez précise d'après leur nom, en fait, de leur situation géographique. D'autres auteurs proposent peut-être de voir dans Arré le mot fleuve. Donc on aurait la ville des marais et du fleuve, ce qui correspond aussi, hein, dans les deux cas évidemment, à la situation géographique de ces deux villes.
Alors Latara, Arré, Lat, c'est étonnant parce qu'il y a une sorte d'inversion des syllabes. Et puis ce qui est tout à fait aussi extraordinaire, eh bien, c'est que ça donne Lat aujourd'hui, ça donne Arles aussi aujourd'hui. Donc une sorte de permanence du nom de la cité. Et ça, c'est une chose, disons-le, assez fréquent dans l'histoire nationale.
Oui, même si à Lattes, on a cherché longtemps. On se disait effectivement le toponyme moderne de Lattes devait être en lien avec la Latara qu'on connaissait par quelques attestations dans les textes, mais on a cherché longtemps ce site et c'est finalement relativement récemment, hein, par rapport à des sites comme Arles qui sont connus depuis la Renaissance ou comme Nîmes qui sont fouillés depuis des siècles ou connus depuis des siècles, c'est pour Lattes, c'est finalement récemment que on a commencé à s'intéresser à ce site à partir des années 60 à peu près.
Sabrina Marlier, puisque vous êtes en ligne de votre musée Arles antique. Bien sûr, vous connaissiez l'origine de votre ville et ce lien avec, justement, la ville de Lattes.
Oui, alors le lien avec la ville de Lattes, pas directement, pas aussi bien, on va dire, explicité, mais l'origine du mot, effectivement, oui, tout à fait, hein, tout à fait.
On ne sait pas. Pas en fait, mais il faudrait parler non pas de Lattes, mais il faudrait mieux parler de Latara. Ce serait une cité portuaire ?
Alors, c'est un port, hein, on en est certain.
Bien éternel.
C'est un port, oui. Alors, aujourd'hui, si vous venez à Latte, hein, situé entre Montpellier et Palavas, dans cette grande plaine...
Palavas-les-Flots.
Palavas-les-Flots, oui, donc dans l'Hérault, comme vous le disiez, dans cette grande plaine alluvionnaire, vous êtes dans le delta du fleuve Lez, qui est canalisé aujourd'hui, mais dans un paysage qui a énormément changé en 2500 ans. Et le site archéologique qui se trouve aujourd'hui dans un quartier d'habitation des environs de Montpellier, sur la commune de Latte, était en fait au bord de la lagune qu'il faut aujourd'hui aller chercher 2 voire 3 kilomètres plus au sud, puisque les dynamiques de comblement de ces zones marécageuses et de ces zones lagunaires font que petit à petit les alluvions portées par les fleuves bouchent la zone qu'on appelle improprement des étangs, mais qui sont en fait vraiment des lagunes, et que cette terre ferme qui est gagnée sur l'eau et sur la lagune, elle va être aussi colonisée par l'homme, alors déjà dans l'Antiquité, mais de plus en plus de manière de plus en plus importante au fur et à mesure de l'avancée au Moyen-Âge, et puis surtout à partir des années 60, après la démoustication de ces zones du sud de la France.
C'était un endroit privilégié pour, durant l'Antiquité, pour les populations, de s'installer là ?
Alors, les collègues qui travaillent sur la podologie, donc la nature des sols, les géomorphologues sur l'évolution des rythmes des rivières, de ce comblement de lagunes, hein, qui sont spécialistes de ces questions, nous montrent qu'en fait, la ville, qui a une forme assez étrange de triangle, suivait très exactement une presqu'île qui se découpait, qui était visible assez nettement en avant de la lagune. Et donc, ce n'est pas du tout un hasard si les fondateurs de cette ville, on viendra plus tard sur leur origine, si les fondateurs de cette ville ont choisi ce lieu qui est facile à protéger, relié à la terre ferme par un petit isthme, et qui va donc visiblement les frapper et donc servir de base pour cette ville.
Léonard Pernet, nous allons faire une sorte de bond dans le temps. Tout commence il y a exactement 50 ans, 1963, avant que de grandes fouilles soient entreprises 20 ans plus tard, des fouilles qui ne cessent depuis. C'est bien ça l'histoire des fouilles de Latara ou de Latte ?
Tout à fait. On fêtera l'année prochaine les 30 ans de fouilles de l'équipe de l'université du CNRS et les 50 ans de l'invention du site par Henri Prade. Alors le site n'était pas complètement méconnu avant 1963, mais on avait l'impression par les découvertes de surface qui étaient faites. Hein, il faut s'imaginer des plaines agricoles qui s'étendent à perte de vue. Latte était peuplée par 800 habitants. Aujourd'hui, il y en a 18 000 sur la commune. Et donc, on savait qu'il y avait des restes antiques, comme il y en a beaucoup dans ces zones, notamment des tuiles. Et on pensait que sur le site de la Latara, qu'on sait aujourd'hui être celui de la Latara, on avait une villa romaine et rien de plus. Et en 1963, Henri Prade, qui est directeur de l'école Pinlevé à Montpellier, voit un jour revenir des élèves à lui avec des tessons qui viennent de la parcelle qui aujourd'hui a été rachetée par l'État et qui est celle de la ville de Latara, des tessons de céramique antérieure à l'époque romaine, qu'on appelle céramique campanienne, des céramiques à vernis noir qui sont produites en Italie au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et lui, connaissant ce mobilier, immédiatement réalise qu'on a une antériorité de l'époque romaine sur ce site, et il demande en 1963 l'autorisation de faire un premier sondage assez profond, et il va se rendre compte que l'antériorité est encore plus importante que ce qu'il imaginait, puisqu'il va trouver de l'amphore étrusque, de l'amphore grecque, et des niveaux qui à ce moment-là sont difficiles à dater parce qu'on est en train de mettre en place la chronotypologie, donc la datation des amphores par leur forme, mais qui va se révéler être en fait de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. 20 ans plus tard, le CNRS et l'université mettent en place un programme de recherche
archéologue qui a œuvré des années dans cette région.
Thierry Janin, aujourd'hui Éric Gaillédra et Pierre Garmy qui ont repris la direction de la fouille. Et donc on a comme ça, avec l'évolution de l'archéologie préventive dans les environs de la ville, une assez bonne connaissance finalement de ce territoire en 50 ans de fouilles, avec la chance que finalement on a commencé les fouilles relativement tard avec des techniques de recherche qui ont permis de sortir assez vite de l'information et de ne pas abîmer, je dirais, certains niveaux.
Alors qu'est-ce que cette cité ? Peut-on d'ailleurs parler de ville dès sa fondation ? Nous sommes autour du 5e siècle avant notre ère.
Hein. À la fin du 6e, au tout début du 5e siècle, on va dire 500 avant Jésus-Christ pour faire simple.
Donc Marseille est déjà créée.
Depuis un siècle à peu près, Marseille est créée depuis un siècle. Mais en Languedoc, on n'a pas d'attestation de ville, c'est-à-dire de lieu qui a été dessiné et pensé pour contenir des habitations avec un système de rues. et d'enceinte. Et Latte est vraiment une ville au sens des urbanistes, puisqu'il y a un schéma urbain qui préexiste à la construction de la ville, qui commence par la mise en place de cette grande enceinte de 750 mètres de long, qui est un immense travail qui demande énormément de main-d'œuvre, hein, puisqu'il n'y a pas de pierre dans cette zone et que tout le soubassement de la muraille sur 2 mètres est en pierre. Il est ensuite, se superpose à ce soubassement, 3 mètres de murs en briques de terre crue. Michel Pi a fait un calcul, on est à peut-être 500 000 de briques en terre crue, donc c'est une masse considérable de travail pour arriver à monter cette enceinte. Et puis à l'intérieur de cette enceinte, on dessine, alors pour les années 500 avant Jésus-Christ, on n'a pas une idée très précise parce que ces niveaux aujourd'hui, ils sont 3 à 4 mètres de profondeur, donc on ne les trouve pas en une ou deux campagnes de fouilles. Hein. Ces niveaux-là, ils ont mis 25-30 ans pour les trouver. On ne sait pas trop à quoi ressemble l'urbanisme des premiers temps, mais assez rapidement, dans le courant du 5e siècle, se met en place un urbanisme visiblement inspiré du monde grec, avec des rues, et à l'intérieur des vides laissés par ces rues, on installe des maisons. Et donc on a affaire, stricto sensu, vraiment à une ville. Alors est-ce que c'est la première du Languedoc? On ne sait pas trop à quoi ressemble Castelnau-le-Lez, qui n'est pas très loin le long du fleuve, mais c'est en tout cas un des premiers phénomènes urbains de cette zone-là du Midi.
Lionel Pernet, donc bien sûr un grand projet urbanistique, mais les chercheurs ont vu tour à tour la main des Gaulois, puis celle des Étrusques, l'intervention aussi des Grecs. Donc, qui fonda et qui vécut à Latara, à Latte, aujourd'hui?
Bien, tous ces gens à la fois, alors pas à la fois, tous ces gens avec des moments un peu différents. On est à peu près certain aujourd'hui, même si on n'a pas des textes comme pour la fondation de Marseille, dont on a l'assurance que c'est bien des Phocéens qui ont fondé Marseille, on n'a pas à Latte de texte qui vient appuyer les hypothèses des archéologues, mais on a dans les niveaux profonds des grandes maisons de 20 mètres de long, d'un type tout à fait différent de celui qu'on peut avoir dans les villages gaulois des environs de Latara pour la même période. Cette grande enceinte, hein, dont j'ai dit qu'elle avait nécessité un travail très, 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 très important. Et puis on a surtout dans ces grandes maisons, notamment une qui a été fouillée proche de la zone portuaire, un entrepôt d'amphores et d'amphores qui sont uniquement des amphores étrusques pleines. Le bâtiment s'est effondré, il y a eu un incendie. On en parlera peut-être tout de suite là, de la raison. Mais on a la présence de matériel étrusque, pas seulement de l'importation, parce que ça pourrait être des objets qui sont simplement importés, mais aussi de la vie quotidienne de ces personnes qui sont manifestement étrusques, avec de la céramique commune sur laquelle on a le nom, les graphites, hein, inscrits de certains de ces personnages en alphabet étrusque. Et donc on est très tenté...
Donc des graffitis étrusques.
Des graffitis étrusques. On est très tenté pour tous ces indices qui convergent, hein, on n'a quasiment pas d'amphores de Marseille sur ces premiers temps de Latara, d'attribuer aux Étrusques la fondation de cette ville, d'amphores donc, qui viennent de la zone de Cerveteri, donc des Étrusques du sud de l'Étrurie qui pourraient être venus ici fonder un comptoir commercial.
Alors justement, on évoque la présence d'un emporium, donc un nom bien sûr antique, pour définir une sorte de zone de comptoir où s'implantent des populations de marchands alloctones, c'est bien ça? Donc on pourrait y voir en deux mots des Étrusques s'installant dans un port loin de leur base pour faire une sorte de relais commercial.
Voilà, on n'ose pas trop parler de colonie étrusque parce que c'est un concept qui n'existe pas vraiment, hein, pas comme les colonies grecques où clairement on a un envoi de colons, de personnes qui sont envoyées pour coloniser des zones et qui appliquent un schéma de construction de ville assez clair. L'emporion au sens strict, c'est un lieu qui est ouvert aux marchands de différentes provenances. On a l'impression à Latte au début que c'est quand même exclusivement et essentiellement des Étrusques. Quel est leur lien avec les populations indigènes, avec les Gaulois? C'est pas évident de le dire, puisqu'on sait que juste à côté, il y a un village gaulois qui fonctionne en même temps que la ville étrusque. Mais on n'a pas forcément trouvé le bon terme pour décrire quelque chose qui est unique à la fois en Méditerranée, en France premièrement, et puis en Méditerranée, puisque les Étrusques ne sont pas connus pour leur fondation de villes à l'extérieur de l'Étrurie. On est sur quelque chose d'extrêmement particulier à Latte.
Alors on connaît bien sûr l'histoire troublée de Martigues gauloise, qui vécut la confrontation avec Marseille grecque. Latara a-t-elle aussi vécu ce genre d'aventure? Est-ce qu'il y a des moments dramatiques? Est-ce que la ville, est-ce qu'elle soit étrusque, gauloise ou grecque, subit des événements importants?
Il semble justement... à une transition assez vite après la fondation de cette enceinte, donc les années 475, hein, on va dire à peu près une génération après la fondation de cette ville. Les Étrusques qui sont là quand même depuis plus d'un siècle, hein, puisque pendant toute la durée du VIe siècle, on a des importations étrusques dans les villages des environs de la Tara. Mais il semble que vers 475, un bout de la muraille, la maison dont je parlais tout à l'heure s'est effondrée, elle a brûlé, un bout de la muraille est percé. Et donc après, il y a une reconstruction pas immédiate, mais assez rapide, avec cet urbanisme à la grecque. Et surtout, on ne retrouve plus tous ces objets étrusques et tout ce mobilier étrusque qu'on avait dans les niveaux précédents. Et donc, il semble que Marseille, et ça correspond à peu près au moment où les Marseillais commencent à gagner des grandes batailles navales contre les Étrusques en Méditerranée, que Marseille reprend le contrôle de ces zones de la Méditerranée nord-occidentale. Marseille a fondé Empurias. On va avoir Agde, qui est un poste militaire marseillais. Et donc, Marseille reprend le contrôle de tout ce littoral. Et la Tara va être investie clairement par les populations indigènes, par les Gaulois, mais très influencée par ces contacts très fréquents, il semble, avec la ville de Marseille.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous possédons un texte antique qui nous éclaire sur la vie des habitants, donc les Latarances, c'est bien ça ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce texte, il est extraordinaire pour deux raisons. La première, alors on est à l'époque romaine, hein, donc Lattes qui va vivre 700 ans, une ville qui se reconstruit sur elle-même, c'est aussi son côté fantastique, c'est qu'on a un gisement archéologique assez unique, il n'y a pas eu de construction moderne qui est venue perturber ces couches archéologiques qui sont bien sagement les unes au-dessus des autres. Et c'est pour ça que Lattes est un chantier école tout à fait fabuleux pour les étudiants, pour voir comment évolue sur presque un millénaire une ville antique. Et à l'époque romaine, donc, on a toutes sortes d'inscriptions. Et Henri Prat, en 1965, deux ans après la découverte du site, trouve une inscription qui mentionne les noms des habitants de la ville en lien avec des corporations romaines, donc de marchands, qui sont des fabris, donc des fabricants probablement de bateaux, des charpentiers navals probablement, et puis des utriculari. Alors les collègues ne sont pas tous d'accord sur la signification du terme, mais visiblement des gens qui, avec des outres, font du transport, alors soit à dos de mulet, soit sur des bateaux ou des radeaux, mais en tout cas sont probablement chargés de transborder les marchandises d'un bateau à l'autre ou d'un bateau au sol. Et le fait qu'on ait le nom des Latarenses sur cette inscription, ça a mis fin au débat qui naissait de dire, mais est-ce qu'on est bien sur le site de Lattes, de la Latara des textes ? À Lattes, on s'est rapidement préoccupé de choses plus intéressantes que la question de la dénomination du site, en tout cas.
Léon Leperne, vous me parlez de commerce, mais bon, Latara, Arles sont bien sûr les portes de la Méditerranée. L'histoire de cette région avant la conquête romaine, c'est-à-dire avant 125, avant notre ère, est-ce qu'elle n'est pas tournée vers un seul produit, à savoir le vin ?
Alors c'est vrai que dans les niveaux d'habitation et dans les poubelles, entre guillemets, puisque les archéologues fouillent beaucoup de fosses dans lesquelles on a les rejets de céramique qui se sont cassés. On a énormément de vases à boire et d'amphores, d'abord étrusques, puis de Marseille. Mais ça doit pas être disons, archéologiquement, c'est le produit qui a laissé le plus de traces à travers son contenant. Ce qui est certain, c'est que les Grecs, les Étrusques et les Grecs étaient intéressés par la région parce qu'ils venaient chercher quelque chose aussi, probablement du métal, peut-être de la main-d'œuvre, des esclaves, du blé ou des céréales qui étaient produites en excès, il semble, dans ces zones du sud de la France. Donc il y a un échange de marchandises. Et puis, le vin n'est probablement pas le seul. Très rapidement, les goûts culinaires vont évoluer. Donc, on va avoir de l'huile d'olive aussi qui va circuler. On va avoir des sauces, les sauces de poisson là, dont raffolent grecs et romains. Et donc, on est sur des échanges qui dépassent la seule question du vin.
Là, c'est aussi des fouilles et un musée. On ne peut passer sous silence un art majeur et très particulier. Une unique statue a été donc pour l'instant exhumée à Lattes. Elle figure en une d'ailleurs du site internet du Salon Noir. Un homme, non un guerrier.
Alors, c'est pas l'unique statue du musée, puisqu'on a des statues romaines, mais c'est l'unique statue de cette première période de la Tara, des années 500 avant Jésus-Christ. C'est un guerrier dont le pauvre, c'est la Vénus de Milo, mais puissance 10, parce qu'il lui manque la tête, les bras et les jambes. Donc, c'est un tronc, en fait, de guerrier avec un plastron, ce qu'on appelle un cardiophylax, qui lui protège les poumons et le cœur. Des cnémides, il a des protège-jambes, une épée au côté. Et donc, ce personnage, qui visiblement représente un hoplite. Alors, est-ce qu'il est grec ? Est-ce qu'il est étrusque ? Les spécialistes n'arrivent pas à une conclusion évidente. C'est pas du tout
un hoplite, facile. C'est un guerrier.
Voilà, un guerrier. Hein. Il a la panoplie du guerrier méditerranéen de ces époques, des années 500 avant Jésus-Christ. Et ce qui est plus intéressant, c'est de savoir d'où il vient, puisqu'il a été trouvé en réemploi dans le site, mais d'où il vient originellement. Est-ce qu'on avait affaire, dans la ville étrusque des origines, à un petit sanctuaire sur lequel on avait un groupe statuaire qui était
un
peut-être
grand
là
sanctuaire.
Ou un grand sanctuaire, enfin une zone cultuelle, ce qui fonctionnerait avec l'hypothèse de l'Emporion aussi, mais une zone cultuelle où on aurait un groupe de statues qui magnifierait peut-être certains héros liés à la fondation de la ville, qui sait.
Je rappelle pour nos auditeurs de France Culture et du Salon Noir que nous évoquons le passé de deux cités méditerranéennes, Lattes et Arles. Lionel Pernet, conservateur du musée Henri Prade de Lattes. Et bien sûr, maintenant, nous allons évoquer avec Sabrina Marlier le passé d'Arles. Sabrina Marlier, donc vous êtes en ligne actuellement de votre musée. Nous évoquions les sculptures celtiques de Lattes. Il y en a bien entendu quantité à Arles, des célèbres même, mais en général toutes romaines, car l'histoire d'Arles, c'est surtout un passé romain.
Alors, c'est surtout un passé romain, oui, mais pas seulement, puisque le médiéval y est aussi bien représenté. Mais on a en effet beaucoup de romains, et c'est ce qui est sans doute le plus visible aux yeux des touristes, notamment avec des monuments emblématiques tels que l'amphithéâtre, le théâtre, et également les thermes de Constantin. Mais je pense qu'il est important également de rappeler que le public a aussi découvert récemment l'importance de la cité d'Arles à l'époque romaine, notamment comme port fluvio-maritime, grâce à l'exposition César, le Rhône pour mémoire, qui a eu lieu au musée départemental Arles-Antiques entre 2009 et 2011, et qui a permis de mettre en évidence les fouilles subaquatiques qui sont conduites dans le Rhône depuis près de 20 ans par les équipes du DRASM, notamment dirigées par Duclon.
Alors, vous le rappeliez exactement, Arles, c'est bien sûr une tête devenue célèbre depuis son exhumation du Rhône. C'est aussi une Vénus, la Vénus d'Arles, actuellement au Louvre. C'est aussi des épaves dans le Rhône. Votre métier, Sabrina Marlier ?
Alors, je suis archéologue, bien évidemment, et spécialiste d'archéologie navale antique, c'est-à-dire que je m'intéresse à la construction des bateaux dans l'Antiquité. Et comme la plupart des épaves, bien qu'on en ait retrouvé à terre ces dernières années, se trouvent quand même le plus souvent dans l'eau, dans les fleuves et dans les mers, je suis également plongeur professionnel.
Alors, vous êtes concentré sur une épave gigantesque. Pourquoi celle-là ? Puisque on peut imaginer que dans le Rhône, il y a quantité d'épaves.
Alors, dans le Rhône, oui, quantité d'épaves, en tout cas, depuis le début des années 2000, c'est une quinzaine d'épaves qui a été révélée durant les fouilles conduites dans le Rhône. Mais l'épave Arles-Rhône 3 est la seule qui fait véritablement l'objet d'une fouille programmée depuis l'année 2008. Et elle s'est révélée être une épave tout à fait exceptionnelle et tout à fait importante, puisque c'est sans doute l'un des bateaux les mieux conservés pour l'époque romaine, avec une coque que l'on estime complète à 95%, avec un bois extrêmement bien conservé grâce au limon du fleuve, que c'est un bateau qui a fait naufrage alors qu'il était encore en cours d'utilisation et qu'il ne s'agit pas d'une épave d'un bateau abandonné, ce qui signifie qu'on a découvert tout le mobilier de bord des marins, à savoir la vaisselle avec des bols, des assiettes et notamment des pièces qui étaient marquées avec les initiales des marins. Le tout s'organisait autour d'un fond d'odolium qui a été réutilisé comme brasero.
C'est quoi un dolium ?
Alors un dolium, c'est une grande jarre, très grande jarre de très grande capacité. Et cette jarre, en l'occurrence, a été coupée dans sa partie médiane pour servir de foyer, en gros de barbecue pour la cuisine des marins. On a également retrouvé dans cette zone de vie des marins des outils associés à des copeaux de bois qui montraient donc l'activité de la vie à bord. On a également retrouvé tout le chargement que contenait le bateau au moment de son naufrage. Et on a également retrouvé la monnaie votive du bateau qui était logée à la proue du bateau entre deux pièces d'architecture. Et il s'agit d'un denier en argent de l'époque républicaine. Donc tout cet ensemble en fait fait de l'épave Arles-Rhône 3 une épave exceptionnelle. Et c'est ce qui a notamment motivé la décision par le Conseil général des Bouches-du-Rhône avec l'accord du DRASM de procéder à la fouille et au relevage de ce bateau. Donc grande opération qui a eu lieu l'année dernière. Et qui a remporté un grand succès puisque donc la fouille complète a été réalisée, l'épave a été entièrement sortie et c'est une opération qui a été réalisée par les équipes du musée, du DRASM et des opérateurs OCAN et ipso facto.
Donc 7 ans de travail pour sortir cette épave. Alors disons-le, 31 mètres de long, j'ai cru comprendre 4 mètres de large, mais surtout entre 4 à 8 mètres de profondeur avec des tonnes de mobilier par-dessus, c'est bien ça, Sabrina Marlier ?
Oui, Oui, tout à fait, puisque l'épave en fait se trouvait prise dans le dépotoir portuaire de l'époque romaine, c'est-à-dire qu'on se trouve à un endroit en fait un endroit du port où l'activité portuaire, les échanges de marchandises étaient très intenses, et donc reflet de cette intensité des trafics, on a retrouvé sous l'eau tous les déchets, tout ce qui était rejeté, tout ce qui était perdu dans les ports, c'est-à-dire des milliers d'amphores, des milliers de céramiques sur des couches qui recouvraient le bateau. Jusqu'à 2 mètres de recouvrement. Donc toute la difficulté pour sortir cette épave, avant d'accéder à l'épave en elle-même, ça a été de fouiller toutes ces couches du dépotoir.
On sait pourquoi le navire a sombré réellement? On peut penser qu'une des crues du Rhône aurait pu emporter le bateau, par exemple?
Oui, tout à fait. C'est une des hypothèses. Pour l'instant, évidemment, on n'a que des hypothèses, mais c'est celle qu'on privilégie le plus, puisque ce qui est certain, c'est qu'on a eu affaire à un naufrage violent, puisqu'on a retrouvé donc tout le mobilier et le chargement. Donc, naufrage violent. Il était possible également que le bateau ait été amarré au moment de son naufrage, puisqu'on sait que lors de son dernier voyage, le bateau descendait le fleuve. Or, on a retrouvé le bateau la proue face au courant, donc probablement amarré. Et l'indice qui nous permet de dire que le bateau a fait naufrage suite à une crue, c'est qu'on a retrouvé sur le fond du bateau une couche d'argile très compacte qui a permis de sceller le mobilier de bord contre le bois du bateau et justement de faire la différence entre ce mobilier de bord et le mobilier appartement au dépotoir. Et l'équipe de géomorphologues qui travaille avec nous a permis de montrer que cette couche d'argile correspondait à une phase de décrue, donc probablement qui a succédé à un épisode de crue qui serait responsable du naufrage de ce bateau.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on connaît désormais sa date de construction, les années 50 à peu près.
Oui, alors avant la date de construction, on s'est déjà focalisé sur le naufrage du bateau, et la date du naufrage a été établie justement par l'étude du mobilier de bord qui a été conduite par David Jaoui, qui est archéologue au musée départemental Atlantique, et qui avait permis de montrer que le naufrage était à situer entre 40 et 60. Et ce sont ensuite les études conduites par nos collègues dendrologues qui ont été conduites donc sur les bois de construction du bateau, qui ont permis de montrer les dates d'abattage des arbres proche du début des années 50. Donc, tout à fait, on situe la construction de ce bateau au tout début des années 50.
Donc, la barge était bien sûr trop grande pour pouvoir être remontée d'un seul coup. Elle a été découpée. Où est-elle aujourd'hui et quel est son avenir? On peut imaginer qu'il s'agit de votre grand musée?
Oui, tout à fait. Alors, il est clair qu'un bateau de 31 mètres, d'une part, il était pas possible, effectivement, de l'ouvrir d'un seul coup dans l'eau. Ça aurait été l'exposer, justement, à une crue qui aurait pu aussi l'emporter. Et en même temps, techniquement, c'était très compliqué de relever une barge de 31 mètres d'un seul tenant. Donc, on a travaillé au fur et à mesure, à savoir et la fouille et le découpage du bateau qui est sorti, finalement, en 10 tronçons et qui ont, au fur et à mesure, été documentés à terre et ensuite acheminé à l'atelier de restauration arc nucléaire à Grenoble, où le bateau est toujours actuellement en traitement et en restauration. La moitié du bateau est déjà sortie des lyophilisateurs de l'atelier, et le remontage du bateau va commencer là dans les semaines qui viennent dans un atelier d'arc nucléaire.
On peut penser à son exposition quand exactement ?
Alors, il est prévu, donc actuellement, le musée départemental Atlantique est en pleine extension, donc ce sont 900 mètres carrés qui sont actuellement construits pour agrandir le musée et pour accueillir non seulement la barge, mais également une grande partie des collections issues des fouilles du Rhône, à peu près 400 objets qui vont s'organiser autour de trois pôles, que sont le commerce, les activités portuaires et la navigation. Et l'inauguration de cette extension avec le bateau remis en place et tout ce mobilier est prévue pour le tout début de l'automne 2013.
Sabrina Marlier, Lionel Pernet, merci beaucoup. Signalons qu'à partir d'avril 2013, une exposition Rodin, la lumière de l'antique verra le retour momentané de l'original de la Vénus d'Arles, bien sûr prêtée par le Louvre. Tandis que le musée de Lattes réfléchit à l'ouverture du grand site archéologique de Latara. Donc, prochaine visite tout à fait possible. Rappelons aussi qu'en partenariat avec France Culture, vendredi et samedi, sont à Arles consacrées à l'archéologie, ou plutôt à la Méditerranée, ses recherches, ses découvertes, en présence de personnalités dont Jean Guilaine, professeur Collège de France, ou Dominique Garcia de l'Institut universitaire de France. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacrera à l'archéologie du jeu. Trictrac, échecs et autres jeux peuvent-ils nous éclairer sur les sociétés passées? Le Salon Noir a été réalisé par Viviane Noël, à la technique Clément Berman, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.